Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre au micro d'IDFM pour ce nouveau rendez-vous compte au cours duquel je vais vous raconter une nouvelle fois comment, derrière la réalité, notre réalité la plus quotidienne, joue en sourdine de bien belles et bien étranges histoires. Des histoires venues souvent de la nuit des temps et des hommes. Des histoires souvent inconnues, oubliées, mais qui, elles, ne nous oublient pas et qui vous feront dire, je l'espère, rendez-vous compte. Double dédicace aujourd'hui à Sarah et à Jamine. Sarah qui, je l'imagine, va boire jusqu'à la dernière goutte ce rendez-vous compte que j'ai imaginé, réalisé grâce à l'absinthe noire jaillissant sous ma plume. Et Jeannine qui lit dans les âmes aussi bien que dans le mar de l'arabique liqueur. Le 5 bis rue de Verneuil à Saint-Germain-des-Prés, ça vous dit quelque chose? Vous savez, ce lieu de pèlerinage recouvert de graffitis, là où vécu, de 1969 à sa mort, le 2 mars 1991, il y a un peu plus de 30 ans, là où vécu l'homme à tête de chou. Je vous ai donné la réponse, vous avez trouvé bien sûr l'interprète de Couleur Café, Serge Gainsbourg. Eh bien, figurez-vous qu'après plus de 30 ans d'attente et de projet, la Maison Gainsbourg va ouvrir ses portes au public ces jours-ci. Alors si vous êtes fan du chanteur, vous allez être servi, doublement servi même. Parce que la Maison Gainsbourg proposera en effet un véritable parcours jumelé avec d'un côté une visite intimiste de l'ancienne demeure du chanteur, avec expérience immersive audio d'une trentaine de minutes, et de l'autre, une plongée dans la vie, l'œuvre et la carrière de Serge Gainsbourg. Le 14 rue de Verneuil dévoilera en effet un espace hybride baptisé Gainsbar, et ce dernier accueillera en journée un café-restaurant, et la nuit, un bar à cocktails et un restaurant, sans oublier un piano-bar inspiré des premières années de la carrière musicale de Gainsbourg. Le tout quand même pour 40 euros. Un peu fort de café, non ? Sortie en 1964, la chanson « Couleur café » reprise ici par sa fille Charlotte est maintenant décriée pour ses clichés sur la femme noire, pour son regard néocolonialiste et une bonne part de misogynie. Bon, c'est vrai, pas de problème, n'empêche, ça reste une chanson éternelle. À propos de café, le thème de notre rendez-vous compte d'aujourd'hui, ah, je ne vais pas vous faire un long historique sur sa découverte, l'importance universelle qu'il a acquise et qui fait quand même de lui la deuxième marchandise la plus échangée dans le monde derrière le pétrole. Rendez-vous compte. Non, juste quelques histoires souvent inconnues, oubliées, mais qui, elles, ne nous oublient pas et qui partagent notre quotidien sans même que nous nous en rendions compte. Après la légendaire maison de Gainsbourg, voici une autre belle légende. Une légende qui évoque la naissance du café. Une légende contée dans les mille et une nuits. Un jour, Kaldi, un jeune berger d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, trouve que ses chèvres sont bien plus agitées que d'habitude. Et oui, quoi, elles restent éveillées plus longtemps, elles sautent de façon désordonnée, mais... Et qu'est-ce que découvre Kaldi en les observant? Eh bien, qu'elles ont ingéré les fruits d'un certain arbuste qui pousse en grande quantité dans les parages. Alors avec prudence, il décide d'en consommer lui-même et il découvre alors l'effet énergisant de la caféine. Parce que ces petits fruits sont en effet les cerises des plants de caféiers, un petit arbre environ 9 mètres de haut, appelé Arabica, puisqu'il est originaire de cette région d'Arabie. Kaldi le berger partage sa découverte avec une communauté religieuse des environs, les soufis. Les soufis sont une branche très mystique de l'islam. Ils pensent que chaque homme est voilé à lui-même. Par la prière et surtout par la danse, l'âme, auparavant opaque, devient comme un vitrail de la lumière spirituelle. Vous connaissez peut-être les fameux derviches tourneurs, qui par une danse sur eux-mêmes et autour du lieu où ils dansent, accomplissent leur union avec Dieu. Alors, les soufis auxquels Kaldi rapporte sa découverte à propos des chèvres et puis du caféier vont fabriquer une décoction dans de l'eau avec les fameuses petites cerises. Avantage, cette boisson nouvelle leur permet de se maintenir plus longtemps éveillés pendant la prière et de poursuivre leur danse plus longtemps. En fait, les soufis ont été déterminants dans la diffusion et la popularité du café. Tiens, vous voulez une adresse où vous entendrez certainement parler cette légende? Eh bien, le café Kaldi à Montreuil, qui torréfie de manière artisanale des cafés fins d'Éthiopie et du monde. Alors là, je suis sûr que votre oreille ne l'a pas oublié. Vous vous souvenez du titre de ce morceau colombien ? Ouais, La Coleriala, la pub pour Nescafé dans les années 80, vous vous souvenez ? En fait, elle a permis à la marque d'augmenter ses ventes de 60%. Le plus drôle, c'est quand même que ce tube a été souvent associé à son concurrent Jacques Vabre. Rendez-vous compte. Une pub légendaire, quoi. À propos de légende, toujours. L'archange Gabriel se fit l'intermédiaire d'Allah pour offrir à Mahomet une plante du verger céleste capable de lui donner la force de créer l'islam. Mahomet en tira un breuvage noir qu'il baptisa Kawa, ce qui signifie l'excitant en arabe, et qui lui permettait, selon lui, de pouvoir désarçonner 40 cavaliers et d'honorer un nombre identique de femmes. Rendez-vous compte. Bon, désolé de vous décevoir, mais la science rationalise un petit peu tout ça. Le café serait en réalité consommé depuis la préhistoire par les peuples de la péninsule arabique. Et la première trace écrite relative au café date, quant à elle, du 9e siècle, dans un ouvrage médical qui décrit les effets du café et de la caféine sur l'organisme, plus particulièrement sur le système digestif. Alors, quand on vous dit que le café a des vertus toniques, il suffit d'écouter cette chanson « Il boit du café » du groupe rock Pigalle, formé en 1982 et auquel appartient François Hadji Lazaro, l'un des fameux garçons bouchers. Ah, je vous avais prévenu, ça déménage. Hein. Alors si vous n'avez pas eu le temps de comprendre les paroles, voilà le début. Il boit du café pour oublier qu'elle n'est pas là, il boit du café pour oublier qu'elle est partie, il boit du café pour ne pas boire du whisky. Vous êtes toujours bien sur IDFN, nous poursuivons notre rendez-vous compte consacré aujourd'hui au café. Le café qui stimule autant notre esprit sarcastique que notre énergie physique. Et ça donne lieu à bien de belles expressions, des sentences à valeur de vérité générale, universelle, intemporelle, tiens, comme ce proverbe turc. Le café doit être noir comme l'enfer, fort comme la mort et doux comme l'amour. Ou alors celle-ci. Rien n'est éternel. Le café refroidit, la fumée se dissipe. Ou celle-ci. Rien n'est éternel. Le café refroidit, la fumée se dissipe, le temps passe et les gens changent. Son auteur s'appelle Julien Lorcy, champion du monde de boxe anglaise, écrivain, consultant auprès de RMC Sport. Figurez-vous que je l'ai connu, Julien, quand il avait une dizaine d'années. Déjà boxeur, je l'ai vu s'entraîner, prendre des coups dans la gueule, il n'y a pas d'autre mot, et en donner aussi pas mal. Pourtant, c'était encore un gosse à l'époque. Tiens, peut-être un prochain rendez-vous compte avec Julien, je pense qu'il aurait pas mal de choses à nous raconter. Et puis figurez-vous que la réflexion de Julien Lorcy n'est pas sans faire écho à celle prêtée à Madame de Sévigné. N'appréciant pas Racine, le dramaturge janséniste, elle aurait écrit « Bon, Racine passera comme le café, persuadé que l'écrivain, comme la boisson, n'était que des effets de mode qui seraient vite oubliés. » En réalité, c'est Voltaire qui lui attribue cette expression un siècle plus tard, furieux que la marquise de Sévigné put à la fois détester Racine et surtout le café alors que lui-même les adorait. Une autre expression pleine de bon sens, celle-là du dessinateur Philippe Gueluc. Boire du café empêche de dormir, par contre, dormir empêche de boire du café. Et au passage, c'est un très beau chiasme si vous aimez les figures de style. Bon, d'autres citations sont carrément imbuvables. Par exemple, celle d'Orson Welles, le cinéaste. Il y a trois choses dans la vie que je ne supporte pas. Le café brûlant, le champagne tiède et les femmes froides.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux.
Énervé aussi, hein, d'Olivier Delafosse dit Old Delaf et son groupe Monsieur D, spécialisé dans la chanson humoristique des années 2000. Allez, on va jouer à Le saviez-vous ? Par exemple, saviez-vous que Beethoven avait une drôle d'obsession concernant le café ? Soit sans grains, ni plus ni moins, pour préparer sa boisson. 60 grains qu'il n'hésitait pas à compter lui-même. Le saviez-vous ? Notre Balzac national était un véritable accro au café. Cet élixir sans lequel il ne pouvait créer selon son propre aveu. Eh bien, il pouvait en boire jusqu'à 50 tasses par jour et à des concentrations particulièrement élevées. Il faut dire que l'auteur de la Comédie humaine était toujours poursuivi par ses créanciers et qu'il travaillait comme un forçat. Il pouvait rester jusqu'à 18 heures par jour sur ses manuscrits. Balzac aurait consommé un paquet de 250 grammes de café tous les jours, soit entre 60 et 90 kg par an. Entre 162 000 et 243 000 tasses et entre 19 000 et 29 000 litres de café pendant sa vie. Entre 1 tonne 6 et 2 tonnes 5 de café en grains. Le café serait d'ailleurs une des causes de la mort de Balzac, parce que la trop grande consommation de caféine lui aurait fait développer une insuffisance cardiaque et réduit sa vie, si l'on peut dire, comme une peau de chagrin. En tout cas, à partir de ce jour-là, on ne l'entendit plus jamais s'écrier.
Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir.
Le saviez-vous encore ? Eh bien, vous pouvez vous aussi jouer à Balzac. Comment ? Eh bien, en achetant et en dégustant tout simplement le véritable café d'histoire. Honoré de Balzac, Paris 1839. Un mélange composé de café Martinique vert, de café bourbon et de café de mocha. Une recette originale recomposée entre autres à partir des factures d'achat de café de notre grand écrivain, rendez-vous compte. À défaut du café historique de Balzac, achetez et relisez au moins un de ses romans. C'est Bourvil qui nous le conseille.
Monsieur Balzac, il paraît que vous avez beaucoup de talent. Le long de la Seine, faudrait que je me donne la peine d'acheter un de vos bouquins.
Vous êtes toujours bien sur IDFM, on continue à jouer au « Le saviez-vous à propos du café ?», le thème de notre rendez-vous compte d'aujourd'hui. Le saviez-vous, mais la consommation du café a été l'objet de combats politiques intenses. Au XVIe siècle, les premiers établissements où l'on pouvait consommer du café commencent à voir le jour, en Égypte, et dans la région autour de la Mecque. On vient y boire le fameux breuvage, bien sûr, mais aussi jouer aux échecs, échanger des idées, entouré de gens de toutes conditions sociales. C'est alors que le café est soudainement interdit par ordre gouvernemental. Mais pourquoi donc ? Quel était le problème ? D'abord, le Coran interdit toute substance enivrante. Le café se voit donc frappé d'anathème, comme l'alcool. Prétexte, et bien sûr prétexte. En fait, sous couvert de non-respect des lois religieuses, les autorités redoutaient la naissance de centres de contestation dans les cafés, où se retrouvaient scientifiques, lettrés et savants de l'époque. Mais, comme toujours, malgré les interdictions, le café continua d'être bu et apprécié par toujours plus de consommateurs à travers l'ensemble du monde arabe. Alors, l'interdiction fut levée. À grand renfort d'arguments médicaux, religieux, tout compte fait, la consommation de café, si on y regardait bien, s'inscrivait parfaitement dans le respect des lois édictées par Allah lui-même. Rappelez-vous l'ange Gabriel apportant la plante du verger céleste, capable de lui donner la force de créer l'islam. Ce sont les commerçants italiens, spécialisés dans le commerce d'épices entre l'Orient et l'Europe, qui les premiers introduisent le café en Europe au début du XVIIe siècle. En quelques années, la fameuse boisson se répand, d'abord chez les moines, les capucins en particulier, on y reviendra, vous verrez, et auprès des commerçants et enfin du peuple. Mais alors, quelle va être la réaction de l'Église ? Proscrire le café comme le tabac ? Les cardinaux entourant le pape de l'époque, Clément VIII, lui conseillent d'interdire le café. N'est-ce pas une boisson des infidèles musulmans ? Mais Clément n'en fait rien. Il y goûte, et s'exclame qu'il serait justement dommage de laisser le plaisir de cette boisson aux seuls infidèles. En France, selon vous, comment le café fait-il son entrée et à quelle époque? Eh bien, rien d'étonnant, c'est à Marseille que le café est introduit sur le territoire. Normal, Marseille est le port qui accueille en premier tous les produits d'Orient. En provenance des ports arabes, par exemple. Tiens, au fait, savez-vous d'où vient le nom de mocha, cette variété de café au goût riche et fruité? Vous savez, le mocha que l'on trouve aussi dans ces gâteaux crémeux au café et qui porte son nom? Eh bien, mocha est le nom du port yéménite devenu premier port exportateur de café. Encore un exemple de nom propre devenu commun. Le café est donc introduit en France par un commerçant marseillais en 1644. La consommation se popularise rapidement et en 1671, le premier café français voit le jour dans la cité phocéenne. Mais ce n'est qu'en 1669 que les précieux grains torréfiés arrivent à Paris. Figurez-vous que la politique et la diplomatie entrent en jeu à l'occasion. Avec la visite de Soliman Aga, émissaire du sultan de l'Empire ottoman, en novembre 69. C'est en effet lui, Soliman, qui permet à Louis XIV de goûter enfin ce breuvage encore mystérieux qui se répand peu à peu dans toutes les cours d'Europe. Mais la tentative de rapprocher la France et la Turquie est un fiasco. Le roi Soleil a pourtant déployé tout le faste dont il est capable. Avec pour but bien sûr d'impressionner l'ambassadeur turc. Son brocart d'or est tellement couvert de diamants qu'il semblait environné de lumière. Pourtant, au sortir de la réception, l'invité aurait déclaré avec mépris « Bah, dans mon pays, lorsque le grand seigneur se montre au peuple, son cheval est plus richement orné que l'habit que je viens de voir. » Quelle va être la réaction de Louis XIV, très affecté par ce mépris? Eh bien, chercher un moyen de ridiculiser ce Turc insolent. Oui, mais quelle vengeance éclatante imaginer? Devinez. Tout simplement, le roi s'adresse à Molière. Oui, Molière. Pour qu'il le venge de l'affront de l'ambassadeur turc. Molière s'exécute. Et brillamment, le 14 octobre 1670, il donne la première représentation du bourgeois gentilhomme au château de Chambord, devant le roi Louis XIV et toute sa cour. Le roi voulait un ballet turc ridicule, eh bien il est comblé. Molière s'est chargé de régler les comptes, en prose, en danse et en musique, avec la collaboration de Lully, dont on écoute en sourdine les compositions pour ce bourgeois. Vous vous rappelez la fin de la pièce? Le naïf monsieur Jourdain est promis à la supposée plus haute noblesse après avoir été promu mamamouchi lors d'une cérémonie turque burlesque. Vous voyez, malgré ses vertus, le café n'adoucit pas les mœurs diplomatiques, mais tant mieux pour le théâtre français. Quelques années plus tard, ouvre l'incontournable, l'immanquable café Procope, au 13 rue de l'Ancienne Comédie, dans le 6e arrondissement. Il porte le nom d'un Italien originaire de Sicile, Francesco Procopio dei Coltelli. Procopio qui fait de son établissement l'un des cafés littéraires les plus courus des années 1690. Et bien au-delà d'ailleurs. Café d'artistes, d'intellectuels, il est fréquenté au 18e siècle par Voltaire, Diderot, d'Alembert. C'est un centre philosophique et politique très actif durant la Révolution française. Comme dit le proverbe, le comptoir d'un café est le parlement du peuple. Et au siècle suivant, le Procope devient un lieu de rencontre d'écrivains et d'intellectuels, Musset, Verlaine, Anatole France, d'hommes politiques comme Gambetta et du tout Paris. Le Procope, au décor et aux souvenirs historiques, mérite à lui seul un rendez-vous compte spécial. Le temps d'une pause café, ou d'un pouce café, selon vos préférences, en compagnie de la chanson Calling You du film Bagdad Café, et je vous retrouve sur IDFM pour la suite de ce rendez-vous compte consacré au café.
just around the bend.
Alors, suite du jeu, le saviez-vous ? Au fait, savez-vous d'où vient le nom de cappuccino ? Le cappuccino, emblème de la culture italienne dans le monde entier. Une base de café expresso mélangée avec du lait, coiffée d'une mousse crémeuse préalablement chauffée à la vapeur jusqu'à le faire mousser, sucrée et servie dans une grande tasse à café. Éventuellement, avec un effet artistique, vous savez, un petit cœur ou une fleur dessinée sur la crème par le serveur. Le cappuccino, aussi délicieux au regard qu'aux papilles. Alors son nom ? Eh bien, il a été inspiré par la tenue des moines capucins italiens, un ordre fondé au XVIe siècle. Oui, ces moines dont l'habit traditionnel, couleur brun noisette, comporte une petite capuche, cappuccino. En italien, capuche de moine du XVIe siècle, petit café crémeux du matin. Voyez, derrière notre réalité la plus quotidienne, jouent en sourdine de bien belles et bien étranges histoires, je n'arrête pas de vous le dire. Sait-on si ces moines capucins buvaient des cappuccinos ? Sait-on si, en guise de clin d'œil au miracle de Jésus transformant l'eau en vin lors des noces de Cana, sait-on donc si l'une des plaisanteries préférées de ces moines capucins n'était pas « Encore ce matin, j'ai changé l'eau en café, mais moi, je reste humble. » Non, je vous rassure, cette blague est l'œuvre de Sandrine Filassier, auteure de romans noirs. Le saviez-vous encore ? Devinez qui a dit « Sans mon café du matin, je suis comme un morceau de chèvre rôti, séché. » Alors qui ? Comme vous ne lisez sans doute pas dans le marc de café, je vous donne la réponse. Aussi étonnante soit-elle, eh bien, c'est Jean-Sébastien Bach lui-même qui a prononcé cette sentence irrévocable, digne du café du commerce. Dans le même ordre d'idées, Clark Gable déclarait « Je ne ris jamais avant d'avoir pris mon café. » Pourtant, il y a des jours où le bonheur minuscule du café du matin ne vient pas à bout des nouvelles du jour, estime quant à elle un peu désabusée la philosophe Sylviane Agazinski. Surtout si, comme Joséphine Baker, qui bien que mondialement célèbre, constatait, en parlant de son pays natal, les États-Unis, je suis rentré dans les palais des rois et des reines et dans les maisons des présidents et beaucoup plus, mais je ne pouvais pas entrer dans un hôtel en Amérique et prendre une tasse de café, et cela, ça m'a rendu folle. Voyez toute l'importance que représente le café bien au-delà de sa simple saveur, ce café que chantent également les chanteurs gypsies dans ce flamenco.
Mi café, olé, 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 mi café, olé, 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 mi café, olé, 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 mi café, olé, olé, olé. Nena, échame café, nena, ay, échame café.
Vous êtes toujours bien sur IDFM, nous poursuivons ce rendez-vous compte consacré à l'histoire extraordinaire du café qui fait partie de notre vie quotidienne et qui est porteur de bien d'histoires assez étonnantes. Tiens, le saviez-vous encore ? La toute première webcam a été créée en 1991 dans un but original. Permettre aux employés de l'université de Cambridge de vérifier si une cafetière était vide ou pleine afin qu'ils ne se déplacent pas pour rien. Rendez-vous compte. Vous voulez des records insolites autour du café? Eh bien, l'Italien Silvio Sabba détient le record du plus grand nombre de grains de café attrapés avec des baguettes chinoises, 46 en une minute. Plus étonnant encore, le café le plus cher du monde est loin d'être appétissant. Il est en effet produit à partir de baies de café préalablement digérées par des éléphants et récupérées dans leurs excréments. Ce passage par le système digestif des pachydermes adoucit, paraît-il, l'amertume du grain. J'ai pas testé. Ce café très prisé coûte aux alentours de 1000 euros le kilo. Rendez-vous compte. Allez, pour terminer cette émission, je vous emmène à la découverte de quelques-uns des cafés les plus dingues et les plus insolites au monde. Les endroits où vous pourrez boire un café comme nulle part ailleurs, ambiance, décor, immersion totale pour amateurs de sensations fortes et d'expériences singulières. D'abord le Lock Up à Tokyo. Ambiance pénitentiaire, décor carcéral. Vous vous glissez dans la peau d'un détenu sans en souffrir les désagréments, bien entendu. Serveur en tenue de prisonnier qui vous passe les menottes avant de vous conduire à votre table, dans une cellule. Bon, faut aimer. Un peu dans la même philosophie, qui consiste à se faire peur sans risque, le Clinique à Singapour. Décor hospitalier, serveur en tenue d'infirmier. Vous pourrez être installé dans une chaise roulante ou dans une banquette, voire même servi dans un goutte-à-goutte façon perfusion, sans commentaire. Bon, beaucoup moins stressant, le Rock Zanzibar, au milieu de l'océan Indien, perché sur un rocher encerclé par la mer. Un cadre somptueux entouré d'eau cristalline. Bon, faut quand même y accéder à pied ou à la nage, selon la marée. Vous avez aussi le Sunland Pub, en Afrique du Sud. Un bar dans le tronc d'un baobab. Un arbre gigantesque, vieux de plus de 3000 ans. Le plus impressionnant peut-être, le Skeleton Café à Gruyère, en Suisse. Ah, ça ne s'invente pas déjà. Âme sensible s'abstenir. Dans le Skeleton Café, le décor est dessiné par le créateur d'Alien. Mobilier entièrement fait d'os. Cage thoracique, colonne vertébrale et autres articulations. Si vous en faites des cauchemars, rappelez-vous l'avertissement sur les affiches d'Alien. Dans l'espace, on ne vous entendra pas crier. Voilà, ainsi s'achève notre rendez-vous compte consacré au café. Faites-moi donc savoir si vous avez aimé ces légendes et ces histoires insolites qui l'entourent et que je vous ai racontées. Des légendes, des coutumes venues de la nuit des temps et des peuples. Des histoires souvent inconnues, oubliées, mais qui, elles, ne nous oublient pas. J'aimerais que vous y repensiez en buvant votre prochain café. Mais ne perdez pas de temps, car comme le déclare avec un humour un peu morbide le dessinateur Philippe Guéluc, déjà cité, il est possible de boire un café dans un café, mais il est souvent trop tard pour boire une bière dans une bière. Et puis, le bonheur, ça consiste à vivre penché au-dessus de deux bols à café. Sur l'un, on a écrit « toi », sur l'autre « moi », et le monde peut crever la gueule ouverte. C'est en tout cas ce qu'estime pour sa part l'homme de théâtre québécois Jacques Languirand. Bon café à tous, serré, allongé, irlandais, turc ou liégeois. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous compte. Une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delatte sur IDFM 98. À la semaine prochaine, même heure sur IDFM. Et en attendant, voici sur le terrain l'émission qui laisse la parole aux Valdoisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio, évidemment.